BFM Business. Objectif, raison d'être. Cyrielle Ariel.
Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, c'est une émission spéciale. Nous avons une guest, un invité tout particulier. Il nous vient tout droit d'Afrique du Sud. Pour toutes celles et ceux qui nous regardent, effectivement, je suis habillée avec la chemise verte du Kruger Park. Nous invitons Mike Horn qui est venu spécialement pour nous. Nous allons rentrer dans la peau d'un explorateur. Il est là, tout de suite, il s'engage. C'est parti.
BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face au défi de la RSE.
Eh bien oui, pour cette spéciale, je suis ravie d'accueillir Mike Horn. Bonjour Mike, comment
bonjour.
Tu vas ?
Bonjour, mais toujours à fond la question. Ouais.
Alors Mike, on le rappelle, vous êtes un explorateur depuis plus de 30 ans et vous vous définissez, et vous êtes d'ailleurs un explorateur professionnel. Ça veut dire quoi être professionnel en fait ?
C'est juste gagner sa vie en faisant ce qu'il aime. Et puis ça fait 30 ans que... En fait, que je suis un explorateur et puis ça me permet en fait de faire ce que je veux faire et puis en même temps gagner ma vie un petit peu que je peux continuer de faire mes explorations.
Ce qui est intéressant et notamment sur BFM Business, c'est que vous êtes un explorateur, vous êtes toujours au cœur de la nature, dans des situations extrêmes, et les marques sont friandes de votre image, de vos valeurs, de votre éthique, et on va tout de suite le comprendre un peu plus tard. Alors on vous connaît notamment pour vos exploits, vos prouesses en situation de survie. Vous avez traversé les deux pôles, vous avez fait 27 tours du monde en bateau.
Ouais, un petit voilier, ouais.
C'est ça. Vous avez suivi la ligne de l'Équateur, vous avez descendu le fleuve le plus long du monde, l'Amazone à la nage, vous avez grimpé jusqu'à 8000 mètres d'altitude et vous avez lancé une start-up hydrogène, c'était au mois de mai, qui propose une technologie du coup hydrogène. Sa mission, c'est de décarboner la planète Innocell. Alors expliquez-nous, c'est quoi aujourd'hui cette start-up que vous venez de lancer dans l'hydrogène ?
Écoute, en faisant un peu mes petites aventures et en participant, je participais à un Dakar. Je me faisais critiquer un peu par les gens qui suivent ce que je fais. Parce qu'en 2019, quand je traversais les pôles Nord, je presque crevais à la fin parce qu'en fait, la glace a devenu trop fine. Et puis, c'était là où j'ai tombé dans l'eau. Et puis, je pouvais sortir et heureusement, je suis toujours vivant.
Voilà.
Et puis, c'est justement là où, même pas deux jours plus tard, j'ai sauté dans une petite voiture et puis j'ai fait un rallye du Dakar. Et puis, je disais qu'en 2006, quand j'étais au pôle, la glace faisait vraiment 2,40 m. 2,50 m d'épais au pôle. Et puis en 2019, quand je mesurais le même endroit, la glace faisait 8 cm. Et puis ça veut dire qu'en 14 ans, il y avait 2,40 m de glace qui a fondu.
C'est terrible.
Ça va très très vite. Et puis c'était justement là que je me disais que si je peux vraiment avoir un impact sur ce qui est mobilité dans notre émission de carbone, c'est là où, en fait, je peux jouer un rôle dans la décarbonisation de notre planète.
Donc, du coup, c'est là que vous avez pris justement conscience et que vous êtes lancé dans Innocell. Alors, pourquoi voilà, ce secteur et surtout, en quoi Innocell va pouvoir se différencier sur ce marché ? Parce que vous attaquez, on va dire, vous essayez de trouver des solutions pour les mobilités lourdes, c'est bien ça ?
Exactement. C'est sûr que les voitures, on voit bien que ça part, en fait, plutôt dans la direction des batteries, les voitures électriques. Les piles à combustible est plus adapté aux camions, aux bus, aux trains, aux avions, dans les secteurs vraiment marines et aussi pour ce qui est électricité stationnaire. Et puis, on a développé un pile à combustible avec l'ICEA en prenant 25 ans de leur expérience, développer...
Vous êtes à Grenoble, tout ça pour
resituer,
voilà, vous êtes associé, vous développez ça avec justement votre associé, Mauro Ricci, c'est bien ça, qui investit 14 millions d'euros ?
Oui, Mauro, il est arrivé, et puis moi j'étais tellement motivé, et puis je dis, Mauro, s'il te plaît, aide-moi un peu, et puis il a dit, Mike, c'est techno et va marcher. Il faut aujourd'hui qu'on change la manière qu'on investit dans l'énergie. Et puis c'est quelqu'un qui a une expérience plus que 25 ans dans les domaines d'ingénierie, qui a eu AK Technologie, qu'il a vendu, et puis il a eu deux, trois petits moments libres, et puis il a dit, mais on y va, on investit, et puis on amène ça à la maturité.
Alors aujourd'hui, vous dites que vous allez lancer une pile à combustible la plus performante du marché. Pourquoi? Comment? Expliquez-nous.
Exactement. Ça veut dire qu'on a pris en fait une étude qui était faite sur les piles à combustible du passé, et puis après on a modernisé en fait ces piles. On a décidé aussi de créer un pile un peu nouvelle génération où un volume et masse on peut être beaucoup plus performant. Et c'est justement ça qui va nous permettre aujourd'hui de vraiment décarboniser l'industrie lourde.
Les navires, vous allez vous attaquer entre guillemets, vos clients, ce seront des navires de croisière, c'est ça?
Exactement, ça veut dire qu'on est dans tout ce qui est pelleteuse, tout ce qui est bus, hein, tout ce qui est camion, et puis dans ce qui est des croisières, des énormes bateaux qui a besoin beaucoup d'énergie.
Vous avez déjà signé des clients?
Ah ouais, ça, maintenant.
Dites-nous tout.
C'est encore, malheureusement, c'est encore en phase de signature. Et puis, on voit très bien un énorme intérêt qui part dans ces directions d'hydrogène.
Alors, quand on parle hydrogène, forcément, en plus, on est sur BFM Business, on pense tout de suite à Air Liquide. Est-ce que vous avez une collaboration avec Air Liquide?
Ah ouais, on travaille avec Air Liquide et puis justement on va aller visiter leur site, et puis Air Liquide qui est vraiment là pour développer l'infrastructure autour de l'hydrogène, et nous notre spécialité c'est vraiment de développer des piles à combustible et tout ce système de codage, de software pour l'intégration. Parce qu'on peut faire des camions en hydrogène, mais s'il n'y a pas d'infrastructure derrière, c'est difficile en fait d'avoir l'hydrogène accessible qu'on a aujourd'hui, du gasoil ou du pétrole ou ce qui est point de chargement de voitures électriques.
Est-ce que ce sera associé à l'hydrogène vert?
C'est sûr qu'aujourd'hui, il faut qu'on produise que l'hydrogène vert. C'est sûr que si on regarde en fait ce qui est surplus d'énergie à travers des centrales nucléaires, il y a 30% de l'énergie qui repart en fait dans la Terre. Et si on peut récupérer ça et on peut le stocker, cette énergie qui est perdue, on peut le stocker en forme d'hydrogène, c'est justement là où en fait l'hydrogène devient presque un fuel gratuit.
Alors justement, de manière très concrète, à partir de quand vous pourriez nous dire, voilà, il y a une innovation, une structure, un bateau qui avance grâce à notre pile à combustible? Ce sera à partir de quand?
Oui, c'est la semaine prochaine. On sort et puis on montre notre premier démonstrateur
au salon
nautique de Paris. Et puis après, on est sur les démonstrateurs de pelleteuses qui va sortir.
Avec quelle marque?
On a pris une marque un peu en général parce que c'est vraiment destiné à toutes les marques.
Ça veut dire. Tu veux pas nous dire une marque, hein, Mike Horn?
Autrement, je me retrouve toujours avec beaucoup de problèmes.
Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que l'exploration, vous inspirez beaucoup les marques, les entreprises, notamment celles peut-être qui nous écoutent. Et vous faites plusieurs collaborations. Vous êtes notamment l'ambassadeur des montres de luxe Panerai, ou encore de Icebreaker, ou encore de la marque Columbia. À votre avis, quelle caution vous apportez à ces marques?
Ouais, c'est plutôt une philosophie de vie, je pense, parce que je suis pas un joueur de foot ou un joueur de tennis ou de golf qui peut vraiment donner à travers de la télévision beaucoup de promotion à leur sponsor. C'est plutôt une philosophie de vie qu'on partage avec mes sponsors. Et puis, c'est plus des sponsors, c'est des partenariats qu'on fait depuis avec Panerai, depuis presque maintenant 22 ans. Et puis, fur et à mesure qu'on crée ces liens, c'est justement là où on trouve un partenariat qui convient, en fait, pas seulement la communication, parce que la communication sans histoire, un peu la communication.
Vous êtes attentif justement à toutes ces marques qui vous sollicitent pour devenir vos sponsors, vos partenaires, vos mécènes. Est-ce que vous faites attention? Est-ce que vous dites non parfois?
Moi je dis beaucoup plus souvent non que oui. Et puis en même temps, ces milieux ont changé aujourd'hui.
Et pourquoi vous dites non?
Parce qu'en fait, ça ne me correspond pas. Si je dois...
Comme quoi, quel type de marque, sans dire le nom, est venu vous voir en disant « Marc, on voudrait vous sponsoriser, vous faire un énorme chèque ».
J'avais déjà des machines à laver, et puis, parce que je lave très rarement mes vêtements. Et puis en expédition, je n'ai pas besoin des machines à laver. C'est justement là où je dis « Mais écoute, c'est sympa, mais ça ne me correspond pas ». Ça veut dire que des vêtements que j'utilise, les chaussures que j'utilise, les tentes, les sacs de couchage et tout ça, c'est sûr que je peux apporter une connaissance, un savoir-faire.
Donc, n'est pas sponsor qui veut de MyCorn, c'est bien ça le message.
Oui, mais il faut que je trouve, en fait, maintenant, parce que je deviens plus âgé, et puis, ce milieu a changé. On voit qu'il y a beaucoup plus d'argent qui est mis vers les influenceurs et tout ça.
Mais vous êtes un influenceur aussi.
Ouais,
vous avez des milliers de followers.
Oui, mais j'influence personne.
Vous influencez beaucoup et vous inspirez beaucoup, et c'est pourquoi vous faites de nombreuses conférences, et notamment des conférences en entreprise. De manière très concrète, comment, quand on a un explorateur comme vous, avec le mental que vous avez lors de vos expéditions, comment ça peut se traduire en entreprise aujourd'hui? Quels conseils vous pourriez donner à des managers, à ces leaders en entreprise, pour justement bien travailler peut-être sa feuille de route RSE, des enjeux, des développements durables, mais également savoir bien manager et fidéliser ses collaborateurs?
Il faut comprendre qu'on vit dans un climat qui est un peu spécial. On sort du Covid, on rentre dans la guerre, et puis il y a l'inflation et tout ça. Ça fait peur aux gens. Le business, ça va plus, c'est plus aussi facile qu'avant. Et puis moi qui vis ça en réel sur une expédition, je connais tous les sentiments des décisions que je prends. Comme je disais à l'équipe d'Allemagne quand j'étais leur coach mental pour les Coupes du Monde au Brésil en 2014, je dis, moi je perds pas un match, je perds une vie. Ça veut dire qu'il y a un certain engagement qui est important. Et puis si nous, des êtres humains, peut être convaincus que notre engagement est à 100%, c'est là où les choses changent. Et puis à la fin, on se retrouve un peu seul. Quand tu vas mal, on se retrouve en fait avec pas mal de doutes, on a peur et tout ça. Mais en fait, à la fin, si on veut faire avancer des choses dans la vie, on doit prendre les décisions, on doit s'entourer avec les gens qui croient en nous. Et quand on est convaincu qu'on peut faire quelque chose, c'est là où les gens autour de nous croient.
Dans vos messages, est-ce que vous encouragez les gens à prendre des risques?
C'est sûr qu'il faut prendre des risques aujourd'hui, mais des risques qui sont calculés, comme les images qu'on a vues quand l'iceberg a cassé la gueule et puis moi je me trouvais dans l'eau. Je ne veux jamais grimper un iceberg si je ne sais pas nager. Ça veut dire qu'il y a un risque que l'iceberg il tombe et qu'il retourne et moi je me retrouve dans l'eau. Mais je me prépare d'abord pour apprendre...
À part si c'est un os polaire.
Comment nager, et puis après je veux grimper cet iceberg. Ça veut dire qu'en fait on peut se préparer un peu pour les moments difficiles.
Trois adjectifs pour être un bon manager aujourd'hui.
Je pense que c'est important d'être honnête et vrai, de vivre dans les moments présents, de voir des choses vraiment comme ils sont et pas d'imaginer que ça peut être mieux ou d'imaginer que, en fait, ça va être plus mal. De voir à travers d'un mur et pas de regarder tous les problèmes qui se présentent devant nous nous permet d'avoir une vision dans le futur.
Aujourd'hui, on le voit, vous vous engagez dans la transition énergétique, donc notamment avec Innocell et l'hydrogène. Aujourd'hui, une marque qui ne s'engage pas pour décarboner effectivement son spectre et ses impacts, est-ce que vous pensez que ce sont des entreprises qui vont durer?
C'est sûr que ça ne va pas durer, parce qu'on peut dire qu'écoute, il y a Mercedes, il y a Audi, il y a Peugeot, il y a Citroën, il y a trop de marques de voitures sur notre planète. Et s'ils ne veulent pas s'engager, en fait, en changeant la manière qu'ils vont construire les voitures et ce qu'ils vont utiliser comme motorisation, ça va être les Apple, les Google, les groupes Richemont et LVMH qui vont construire les voitures. Parce que la technologie, on peut avoir si on achète les gens qui savent fabriquer. Mais quand la philosophie d'une boîte continue d'aller dans la fausse sens, on peut l'arrêter là. Ça veut dire que c'est un moment très intéressant pour faire un business aujourd'hui. Moi, de rien. Et sans finance, j'ai une pile à combustible qui peut avoir une valeur de 200 millions à 1 milliard dans une année. C'est pas un moment de dire que, écoute, il faut qu'on arrête. C'est un moment qu'on accélère.
On ne vous y attendait pas forcément de vous retrouver dans l'hydrogène.
Pardon ?
On ne vous attendait pas forcément à vous retrouver dans le secteur de l'hydrogène.
Oui, pas du tout, mais c'est sûr que je m'intéresse à tout. Je m'intéresse aux situations politiques, à tout ce qui est une technologie, tout ce qui est tech. Et puis, quand on s'intéresse, c'est là où on trouve une petite niche qui est un tout petit peu plus excitante qu'une autre. Et puis, c'est là où, il y a 2 ans, je ne connaissais rien sur l'hydrogène. Aujourd'hui,
c'est l'avenir selon vous, du coup ?
C'est une brique qui va aider la transition de son énergie pour décarboniser notre planète. Comme on peut avoir nucléaire, on peut avoir l'électricité, les batteries des voitures électriques. L'hydrogène va jouer un clé, mais un rôle très, très fort dans la future pour résoudre notre problème d'énergie.
Alors, d'ici quelques mois, vous allez partir en expédition. Je crois que vous allez faire un peu un tour du monde, c'est ça? Expliquez-nous. Est-ce que l'hydrogène va être justement faire partir de votre parcours?
Exactement. On va commencer avec une petite expédition
en 2023.
Au nord. 2023, au mois de février, fin février, début mars, on part de Monaco. Et puis, on va amener en fait un DJ sur un morceau de glace qui dérive et qui va fondre. Ça veut dire qu'il va jouer sur un morceau de glace.
Il sera qui comme DJ ?
Luciano, c'est un grand DJ d'Ibiza. Et puis moi qui n'écoute pas beaucoup de musique, mais mes filles écoutent, ils disent, mais papa, ça c'est mon
garçon. Donc il y aura vos filles avec vous.
Et puis après, on a un pile à combustible on va générer l'hydrogène sur place. On va utiliser cet hydrogène pour donner l'électricité qu'on veut, et t'as les vapeurs qui sortent, et c'est l'économie circulaire.
Donc vous allez parler de l'hydrogène, de cette solution également, du dérèglement climatique, en tout cas de la fonte des icebergs, c'est bien ça?
Exactement. Aujourd'hui, la glace fond beaucoup plus vite qu'on a même une idée que ça va fondre. Et puis si on fait pas quelque chose tout de suite, on ne peut pas repousser des dates. On doit presque revenir un tout petit peu en arrière vers les chevaux, pour qu'on stabilise la situation, puis après on peut repartir.
Et très rapidement, quelle est la raison d'être de MyCorn ?
La raison d'être, c'est d'inspirer, d'être un exemple. Je ne suis pas toujours un bon exemple, mais que je veux dire que j'ai tellement d'énergie et de vouloir partager cette énergie avec tout le monde et juste croire de notre capacité. C'est pour ça que je suis là.
Eh bien, vous inspirez. C'est pour ça que vous avez beaucoup de questions des internautes qui vous attendent. Il est temps de passer aux questions des internautes.
BFM Business, objectif, raison d'être. Les questions des internautes.
Et oui, comme chaque semaine, je suis ravie de retrouver ma consoeur Rebecca Blanc-Lelouch qui a des questions du coup pour MyCorn de tous nos internautes. Et on va commencer avec Franck.
Franck, en 2014, vous avez travaillé avec l'équipe nationale de football d'Allemagne. Quel est votre avis sur la Coupe du Monde de cette année ? Demande Franck.
Ah ouais, ça c'est une bonne question. Parce que je suis en France, j'espère que les Français ils vont gagner. Hein. Mais c'est sûr que, en fait, si tu veux gagner, tu ne dois pas avoir peur de perdre. Et puis cette année, malheureusement, avec la Coupe du Monde, je ne pouvais pas être présent pour une équipe parce que je prépare une expédition autour du monde. Mais c'est sûr que je m'intéresse aux performances des athlètes. Et je pense que si on enlève en fait les obstacles et les joueurs peuvent jouer avec beaucoup de liberté, c'est là où en fait on va avoir une Coupe du Monde de ouf. Et puis je pense que ça va être intéressant, même s'il y a un peu le Qatar et leurs problèmes, il faut qu'on regarde du sport et puis qu'on soutienne un peu ça.
Mais du coup, Mike, vous soutenez la France ou l'Afrique du Sud ?
En fait, l'Afrique du Sud, je joue pas, malheureusement. Bafana n'a pas arrivé de qualité. Et puis, moi, je suis derrière les Français. J'étais avec l'équipe de Reims l'autre jour. J'étais avec les jeunes filles de Lyon, l'Olympique lyonnaise.
Lyonnais.
Je travaille toujours en France avec les footballeurs. Et puis, c'est sûr que c'est un pays avec un tel potentiel. Et en plus, les Français ont gagné contre l'Afrique du Sud en rugby le week-end passé.
On poursuit avec Aurélien. À quand une expédition avec des chefs d'État ?
Ah oui, ça, il faut aller tout de suite, hein, parce que dès qu'on le met dans une situation où il ne peut plus parler et puis il doit penser à la survie, c'est là où ils retrouvent leur base. Et puis, je pense que un bon politicien, c'est quelqu'un qui fait quelque chose pour d'abord du peuple, pour son pays et pour la nature. Et puis, quand on retrouve des chefs d'État qui est prêt de vraiment faire quelque chose pour les gens et qui prend en considération l'aspect, on ne dit pas seulement économique, mais comment un autre, on peut conserver en fait ce qui est nature, parce que la nature, c'est un peu la maman qui nous donne à manger tous les jours. C'est là où on trouve quelqu'un qui est bien. Et des fois, j'ai envie de presque amener les Russes avec les Ukrainiens au pôle Nord en disant que maintenant on marche jusqu'à on est fatigué et puis on va voir si vous voulez toujours faire la guerre. Et ça, c'est sûr que là, on ne veut pas faire la guerre. Là, on se met ensemble, on trouve des solutions pour rester vivant.
Pour survivre. Très bien. On continue avec Mohamed.
Quand souhaitez-vous vous reposer et où est-ce que vous partez en vacances ? Demande Mohamed.
Les vacances ? Mohamed, mais tu m'invites pour aller en vacances, je suis tout de suite preneur. Non, mais ma vie, c'est en vacances. C'est sûr que ça fait 30 ans que je fais des expéditions à gauche, à droite. C'est aussi un style de vie qui me permet d'avoir du plaisir. Ça veut dire que des vacances, c'est vraiment avec les 30 000 jours qu'on a à vivre dans une vie moyenne. J'ai pas beaucoup de temps de partir en vacances, mais c'est sûr que quand mes filles me demandaient de l'amener au Disneyland Paris,
c'est une expédition.
Je l'amenais en fait au pôle Nord, et c'était une autre vacance, mais une vacance qui a changé en fait aussi leur vie. Des vacances doivent aussi avoir un sens.
On continue avec la question de Laurent.
Alors, on a gardé cette question parce qu'elle nous a bien fait rire. Est-ce que Mike Horn conseille de manger du chou pendant une expédition ?
Ah ouais, tu manges tout ce qui bouge. Ça, c'est sûr que, en fait, ce qui est bien du chou, c'est que tu peux le garder pour très longtemps. Et puis, quoi, ça pourrit pas vite. Hein.
Ah, c'est pour ça. C'est pour ça.
Lui. Exactement. Ça veut dire que c'est la nourriture de base qu'en Afrique, tout le monde mange ça. Et puis, il n'y a pas toujours l'électricité des frigos et tout ça. Ça veut dire que chou, c'est un bon truc à manger.
Et vous avez commencé justement
ma vie, j'ai bien gagné ma vie en vendant du chou partout.
On continue avec Basile.
Comment maintenez-vous une performance physique aussi élevée malgré les années qui passent ?
Mais c'est sûr qu'il faut, il faut que je reste en forme. Et puis, je vois la vie comme un flaque d'eau un peu, tu vois. Si de l'eau ne bouge pas, ça pourrit et ça pue. Et puis, l'homme, c'est un peu pareil. On a quand même 80% d'eau dans notre corps. Et puis, si on ne bouge pas, si on ne fait rien, en fait, c'est là où ça devient difficile de redémarrer, de rester actif, de pas trop boire, mais de boire quand même, de pas trop aller dans l'excès. On dit
juste milieu.
Juste bon milieu. Et puis, tu vois, on doit avoir du plaisir. Moi, j'ai pas tous les jours du plaisir en me réveillant, en allant pour aller courir et tout ça, mais je le fais par discipline. Et puis, cette discipline, ça donne aussi un plaisir.
On continue avec la question de Seb.
À quand une expédition Mike et Cyrielle ?
C'est une bonne question.
Ah mais Cyrielle, elle m'a déjà invité pour aller avec elle pour ses requins. Et puis je trouve ça mais extraordinaire. Quelqu'un qui m'invite de partager une passion où je pars prompt. Ça, c'est une expédition. Et puis on ne doit jamais dire non. Et puis moi, je suis toujours première de dire oui, je suis là. Parce que quand on dit oui, je suis là, c'est là où tu peux apprendre.
Attention, Mac, hein, je réclame les requins blancs.
Oui, mais j'ai déjà nagé avec les requins blancs
en Afrique du Sud. On m'a écouté.
Mais je suis sûr aussi que je nage plus vite que toi. C'est pour ça, toi, tu te fais bouffer. Et puis moi,
les requins n'attaquent pas les hommes, Mike.
Pas du tout.
Voyons, c'est que dans les films que ça se passe comme ça. Et très rarement. En tout cas, dans la vraie vie, merci infiniment, Rebecca Blanc-Lelouch. Merci infiniment, Mike Horn, pour avoir été notre invité spécial dans Objectif Raison d'être. Et puis j'espère que voilà, cette émission vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, à la même heure, au même endroit. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.
Merci beaucoup.
BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face au défi de la RSE.